Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus, l'émission de la moto et des motards, tous les dimanches de 11h à midi. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche du mois, et qui dit troisième dimanche dit tout terrain, deuxième, ça marche aussi. Et donc, nous recevons notre ami Guy Pilarczyk. Bonjour Guy.
Bonjour Luc, et bonjour Laurent, et bonjour à tout le monde.
Voilà, bonjour à tous.
On va présenter tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du monde. Donc là, pendant cette première partie de l'émission, on va parler tout terrain. Donc, le classement.
Des classements du championnat du monde. On va parler des courses sur sable et des courses sur glace. Enfin, tous des résultats.
Voilà.
Et on va avoir un invité de marque.
Que dis-je de marque? Une personne emblématique,
emblématique
du tout terrain.
Du hein tout terrain en France.
Voilà. Joël, c'est ça, Joël?
Joël Corroy, oui. Qu'on aura au téléphone parce qu'il devait passer. Il devait partir en Angleterre chercher un side et puis bon, ça s'est reporté.
Pour donc, des problèmes de calendrier et donc on le fera par téléphone.
Voilà.
Pour ceux qui connaissent, j'en ai parlé un petit peu autour de moi avant, tu vois, et il y a des gens qui connaissent bien, notamment ceux qui connaissent le trial.
Hein. Principalement, oui.
Voilà, il a créé une moto française,
voilà. Hein,
purement française, il en a vendu 1000, je crois,
1000, oui.
Qui s'appelait Joël Corroy Moto, JCM.
C'est JCM,
ça Joël Corroy Moto. Mais il n'a pas fait que ça, il a été pilote de motocross, il a également une école de pilotage.
De pilotage, oui.
Il a également un musée
moto,
etc.
Oui.
Quoi. Énormément, quelqu'un de très très actif. Et en plus, il a deux jumeaux.
Et deux jumeaux, oui. Oui. On en parlera avec lui.
Des jumeaux.
Oui.
Voilà, ensuite on parlera également calendrier des motoclubs, hein, réalisé par Kikinkou. C'est l'occasion de refaire une petite annonce. Et puis un peu l'actualité moto du week-end. Et donc dans la deuxième partie, nous accueillons les représentants du Festiroc de Flins-les-Raches. Hein. Donc il y a Jean-Pierre qui est là, qui était déjà venu je crois l'année dernière, hein, je crois, ouais. C'est ça. Ah bah Jean-Patrick, bah tu vois, hein, on est le deuxième dimanche du mois et c'est bien Jean-Patrick, ça marche. Et il y a également Simon qui est là, hein, qui
bonjour
est non seulement membre actif à l'organisation du Festiroc, mais aussi un élu de la commune de Flins-les-Raches, je
tout
crois.
Tout à fait, tout à fait.
Il y a du bon monde. Et enfin, donc il y a également un représentant d'un des groupes qui passera en première partie lors de ce festival. Hein, donc c'est Didier du groupe Ursula.
Bonjour.
Qui est un groupe lillois, je crois,
ouais.
Hein, voilà,
ouais.
Et qui fait donc t'es auteur, compositeur, interprète.
Ouais, voilà, avec mes potes, ouais.
Voilà, donc c'est des compositions, je veux dire.
Ah oui, c'est des compositions.
Voilà.
On fait quelques reprises pour l'événement parce que les gens aiment bien, mais sinon c'est vrai que on compose quoi. C'est
ouais,
notre
et puis,
musique.
Et puis le groupe vedette, c'est un cover queen, mm-hmm. C'est cover queen, donc mm-hmm. C'est pour ça que je précisais que c'était tes propres compos.
Ah ouais.
Et donc je sais que tu écris en anglais,
oui.
Hein, mm-hmm. Et tu chantes avec un accent néo-zélandais.
Oui, une pointe d'accent néo-zélandais, mais
ça c'est la, ouais. Ça c'est, hein, c'est
t'es mais c'est surtout, j'ai surtout un accent britannique quoi.
D'accord.
Tiens.
On écoutera ça tout ouais. À l'heure. Mais je sais que tu as aussi deux morceaux en français.
Oui.
Un en québécois et un en français.
Voilà, c'est ça. Un en français standard, ouais.
Donc on écoutera ça tout à l'heure. Et comme tu disais, Guy, nous avons à la technique et à la programmation musicale monsieur Laurent Roudier.
L'incomparable monsieur.
Musique.
40 long hours and he slept a wink. Long as money's in the pocket, uncoiled the kink. I got a mind, can't stop it like a drip stuck sink. I got a mind, can't stop it like a steam locomotive. Shooting Jack and cocaine like a smoking gun. Breaking my brain till the D's all done. Gonna shake my fate of a firstborn son. Gonna rooster up till morning come. She loved the blues. Green eyes leave me gutted on the way she moves. Got a man at it.
fun. You better shoot, loop, or give up the gun. I get a taste for trouble with your bad eyes. Gonna make some rubble, swinging chin head high. Roosted up on doubles, got sand to try. Loosen up the shovel, a man stand and die. So I'll be kicking up the road until the buzzers in my bowl.
Vous êtes bien sur Radio Campus, vous savez que vous pouvez nous écouter sur le 106.6, mais aussi en direct sur radiocampus.com via internet, mais aussi en podcast sur kac.free.fr où là vous avez l'ensemble des émissions de l'année qui sont enregistrées et donc vous pouvez retrouver votre émission préférée autant que vous voulez via internet. Guy, tu vas nous parler tout terrain,
hein ? Tout terrain, oui.
Mais et notamment motocross,
sable. Non, pas sable, c'est un supercross qui se déroule actuellement. Aujourd'hui.
À Bercy.
Ça a commencé le vendredi, samedi et aujourd'hui. Donc, Supercross de Bercy, c'est vraiment une affiche toujours assez importante avec des pilotes américains et français, enfin belges, etc.
Et des images spectaculaires aussi.
Et en effet, donc, aujourd'hui, cet après-midi, c'est la fin. Mais je peux donner, par exemple, les trois premiers qui ont terminé hier soir, oui. C'est un Américain, parce que les Américains sont forts en Supercross. Hein, c'est Justin Barcia, c'est un Américain. Comme je te disais, sur Honda. Le deuxième, c'est un nom marrant, il s'appelle Trahi Canard, comme canard.
On en avait un aussi de canard, oui.
Ah ouais. Toujours, c'est l'Américain sur Honda, et quand même un Français, Gauthier Paulin, sur Kawasaki, qui termine troisième.
Est-ce que tu sais qu'il y a une retransmission sur NT1 cet après-midi du Supercross de Bercy ?
Non, mais sur Moteur TV, par exemple,
ah ouais.
Ça va être retransmis aussi. Ah bah tu m'apprends quelque chose. Ah bah,
et ce soir sur RMC TV, donc sur la TNT, à 20h30, mais là c'est du motocross.
Et cet après-midi, le Grand Prix d'Espagne, alors de vitesse, donc... On va rester assis sur le fauteuil.
En plus, il est important parce que c'est le dernier Grand Prix de la saison, je crois.
Oui, voilà. Hein, ouais. Il y a les championnats et en Moto 3. Je crois que le champion n'est pas encore connu.
Tout à fait.
Et Mister aussi en Moto GP. Enfin bon, pour le dire.
Et il y a notre ami Gilles qui lui intervient le troisième dimanche, qui est donc spécialisé en Grand Prix, qui pourra faire le point sur cette manifestation.
En effet. Alors, de Bercy, nous partons en championnat de France des courses sur sable. Alors, la première épreuve s'est déroulée à Berck-Plage, voici trois semaines, mais elle était annulée à cause de la pluie, du vent et les conditions de sécurité, parce que bon, ils ne voulaient pas refaire le même problème qui est arrivé au Touquet.
Ouais.
Mais dimanche prochain, c'est Long-Plage, ça compte toujours pour le championnat de France des courses sur sable. J'en reviens sur Berck. Il y a eu des courses quand même pour les gamins et pour les quads qui, qui va rester en compte pour le championnat de France.
D'accord. Et donc dimanche, c'est la Ronde des Sables, c'est ça? C'est celle-là?
Oui, ça doit être la Ronde des Sables, oui. Enfin, l'appellation à Long Plage, près de Dunkerque.
Hein, voilà, c'est, l'entrée est gratuite. Hein.
Oui, c'est gratuit.
Bah, hein, pour une fois, il faut préciser. Hein.
Non, c'est mais vrai. Oui, c'est vrai, parce que bon, gratuit, parce que je prends Bercy, la place assise la plus chère, c'est quand même 88 euros quand même.
Ah, hein, tout à
donc,
fait.
Il ouais. faut pas aller avec la famille.
Voilà, et puis en plus, à Long Plage, si tu veux prendre un bon bol d'air, il n'y a pas de problème.
Voilà. Toujours motocross, je vais parler des classements des championnats du monde de MX1, 2 et 3. Alors, un MX1, c'est un Italien, Antonio Caroli, qui, c'est son cinquième titre d'affilée, c'est un pilote KTM. Et je vais parler de Gauthier Paulin, lui, il termine cinquième sur 66 pilotes classés. Et bien qu'à un moment il était second du provisoire, et puis bon, panne ou chute, voilà. En MX2, c'est un Hollandais, Jeffrey Herling, qui est champion. Alors il avait fait le pari de gagner tous les Grands Prix, mais non, ça n'a pas marché. Il s'est quand même blessé, cassé l'épaule, donc...
ouais, c'est assez courant les chutes, hein, quand même.
Les chutes en motocross. Alors les Français, il y a quand même un pilote français qui fait vice-champion du monde, c'est Jordi Tixier. Et quatrième, c'est Christian Charlier, c'est toujours un Français. Et dernier point, c'est sur le MX3, c'était l'ancienne classe 500. Et c'est un, je crois que c'est un Slovène, Clément Gergard, pardon, sur Honda. Il faut savoir aussi que cette classe X500 va disparaître. Ils vont changer parce qu'il n'y a pas assez de monde. Enfin, c'est plus populaire. Enfin, pas plus populaire, mais c'est un Italien qui gère les Grands Prix. Donc le MX3 le laisse un peu sur le côté. Et dernier point, c'était le Motocross des Nations qui s'est déroulé en Allemagne. Et c'est les Belges qui sont montés sur la plus haute marche devant les USA et l'Italie.
Bravo.
Et la France fait cinquième.
Ah, pas mal, pas mal. Juste une petite anecdote quand on parlait de chute, hein, Guy, de chute en moto. Une petite anecdote par rapport au pilote de cross. Une interview, tu avais déjà fait une interview de Joël Courroy, où il raconte un moment où il est dans les essais pour se qualifier. Et là, il y a un concurrent qui lui envoie une pierre sur la main, il se casse deux phalanges. Il va à l'hôpital, il met un plâtre. Il revient, il découpe son plâtre pour pouvoir attraper le guidon, il continue, il se qualifie. La semaine d'après, il finit deuxième.
Ouais, formidable.
Bah, il faut en vouloir quand même.
En vouloir. Hein.
On va pouvoir s'entretenir avec lui tout à l'heure. On va forcer un petit morceau de musique en attendant.
My friends, he gon' keep me company. Now this is my best friend. His name is Jack, and he's on. Smile on
But I got my friends here, gon' keep me company. This is my confidant. She calls those shots. When just when I think I got it straight, she rearranges those dots. Now maybe one day I'm gonna get it right, but I guarantee you that won't be tonight. 'Cause you can give up on me. But I got my friends here, gon' keep me company.
Vous êtes bien sur Radio Campus, l'émission des motards où on met aussi de la très bonne musique. Merci Laurent. Nous avons au téléphone Joël Courroy dont on parlait tout à l'heure, une figure emblématique du monde du motocross, n'est-ce pas Guy ?
En effet, Luc, Joël devait être présent dans nos studios parce qu'il devait passer sur l'île en allant sur Calais chercher un side en Angleterre. Mais bon, on l'aura au téléphone aujourd'hui. Joël, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je vais te brosser un peu ton
portrait
rapidement. Tu me diras si j'oublie quelque chose. Hein. Donc, Joël a été pilote de motocross, même officiel Maico, c'est une marque allemande. Pilote d'enduro et de trial, constructeur d'une moto de trial, c'est la JCM, à plus de 1000 exemplaires. Où en 1983, Charles Goutard, qui était champion de France de trial, a monté les deux étages de la Tour Eiffel au guidon de cette moto.
C'est vrai que ça va plus vite qu'avec l'ascenseur. Hein, parce qu'il y a du monde hein, pour prendre
ou
l'ascenseur.
À pied plutôt. il organise aussi, Joël, des crosses et des trials anciennes. Un des créateurs de l'AFATA, qui est l'amateur des amateurs de trial à l'ancienne, et aussi créateur de l'AFAM, c'est l'amateur des crosses à l'ancienne. A créé un musée entièrement consacré au tout-terrain, dont une bonne centaine de machines sont exposées dans ses ateliers. Il a fait une école de cross et de trial, il organise des balades et aussi il est concessionnaire des 4 marques japonaises, chose assez rare en France, plus toute la gamme de motos de trial et d'enduro. Il restaure aussi des motos anciennes et dispute régulièrement les 2 jours de trial classique en Écosse. Et cerise sur le gâteau, avec son épouse, il a même donné naissance à des jumeaux, Cyril et Christophe. Est-ce que je me trompe, Joël ?
Il y a beaucoup de choses, tout ça.
Hein ? Et j'ai pas fini, hein ? Alors tu peux en rajouter. Hein ?
Non, mais simplement rajouter la Tour Eiffel, il y avait 2 pilotes, il y avait Charles Coutard. Alors la Tour Eiffel, c'était il y a 30 ans, c'était un peu plus de 30 ans, c'était le 26 octobre 1983, et on avait lancé sur le marché la JCM en réalisant la montée des 2 premiers étages de la Tour Eiffel par les escaliers. Alors contrairement à ce que disait ton ami, ça allait moins vite que l'ascenseur parce que pour gravir les 2 étages, 742 marches, il fallait une bonne demi-heure. Donc c'était quand même assez long, c'était pénible, ça passait pas, c'était très difficile. Et il y avait 2 pilotes, il y avait Charles Coutard et il y avait Joël Desquin.
Ouais, Joël Desquin, oui.
De Lourdes, qui était à l'époque champion de France de trial indoor, toujours sur la JCM. Voilà.
Et comment tu voulais aussi réaliser un deuxième, une deuxième montée, mais que ça n'a pas marché, je crois, hein, cette année même.
Donc pour les 30 ans, on avait l'idée de refaire une montée commémorative de la montée, là, qui était considérée à l'époque comme un exploit. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait eu un coup de publicité extraordinaire. Il y avait 200 journalistes qui étaient là. Il y avait 10 chaînes de télé. Il y avait la chaîne américaine Incroyable mais vrai. Ça avait été un coup médiatique et on ne s'y attendait pas. La raison, c'est que on avait un ami qui avait d'ailleurs réussi à avoir les autorisations pour organiser la montée auprès de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui était rédacteur en chef de l'agence France Presse, Patrick Menet, donc, qui avait envoyé à l'époque, on ne parlait pas de mail ni de fax, on envoyait des téléx. Il avait envoyé des téléx à toutes les agences de presse du monde en disant « Demain, une moto de fabrication française va monter les deux premiers étages de la Tour Eiffel ». Donc la Tour Eiffel est un monument mondialement connu, bien sûr, hein, comme la Muraille de Chine ou la Statue de la Liberté. Et ça a déclenché toute la presse mondiale qui est venue voir. Et nous, on ne le savait pas. Ça. On avait prévenu nos copains de la presse moto, de Motorvue, Motojournal, Motoverte. À l'époque, il n'y avait que 3 journaux moto. Et on avait dit « Écoutez, on va essayer de monter, on fait cet essai-là. Si ça ne va pas, vous ne dites rien. Et puis si ça va bien, vous ferez un petit article dans vos journaux ». Et en fait, quand on s'est retrouvé le matin du 26 octobre 83 sur le Champ de Mars, avec 200 journalistes qui attendaient à ce qu'on réalise la montée, et on n'était pas sûr que ça marcherait, on a commencé à se poser des questions. On a dit si on souffre, on est mondialement ridiculisé. Et en fait, avant de monter, on a dû faire une conférence de presse devant tous ces journalistes, en expliquant qui on était, ce qu'on allait faire, pourquoi une moto de trial française, quelles étaient les caractéristiques de la moto. Donc on a eu une conférence de presse là-dessus. Et après on s'est lancé. Et heureusement que j'avais les deux meilleurs pilotes français de l'époque. Qui ont réussi à monter, et c'était très pénible, c'était très difficile, notamment entre le rez-de-chaussée et le premier étage, les escaliers sont très serrés et ça ne tournait pas, il fallait faire ce qu'on appelle des pivots, il fallait monter la roue avant sur les grillages pour arriver à monter, et donc heureusement qu'on avait des pilotes de très bon niveau qui ont pu faire ça. Et donc ça a réussi, et voilà, ça a été un coup de cuve énorme.
Et vous n'aviez pas fait d'essai auparavant, avant d'inviter toute la presse, vous n'aviez pas fait d'essai du tout ?
On ne savait pas, parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait toute la presse. On pensait qu'il y aurait nos copains de la presse moto qu'on connaissait depuis tout le temps, en leur disant si ça ne va pas, vous ne dites rien, puis si ça va, voilà, vous ferez un papier, c'est tout. Hein.
Et c'est grâce à ça que tu as vendu 1000 motos alors ?
Non. Alors c'est toute une histoire. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a fait un tellement gros coup de pub que le lendemain, tout le monde voulait acheter des motos. Mais on n'en avait encore pas produit une. On était les premiers modèles sont sortis fin 83 et on était au mois d'octobre 83. Donc en commerce, le pire de tout, c'est de dire aux gens, attendez, on a un produit formidable, parce que ça a été la première moto de trial au monde avec un mono-amortisseur. Maintenant, toutes les motos sont comme ça. C'est une technique qui a été suivie forcément. Et c'est un mono-amortisseur progressif, en plus un mono-amortisseur oléo-pneumatique où on avait un brevet dessus, et c'était un truc vraiment qui, à l'époque, a fait vraiment progresser la technique du trial. Je prends un exemple, les motos d'époque, les Bultaco, les Montesa, un pilote qui avait l'habitude de passer une marche d'un mètre de haut avec sa moto, il prenait une JCM, avec une JCM, il passait une marche d'un mètre cinquante. C'était vraiment
un progrès technologique.
Une avancée technique considérable dans le trial. Bon, après, les autres constructeurs ont suivi. Donc, mais nous, on était des petits artisans, c'est-à-dire que... On pensait, il faut savoir que début 83, on ne pensait pas produire des motos. Moi, l'idée était de faire ma moto personnelle, me faire une moto qui avait une avancée technique, mais je n'avais jamais pensé à développer une usine de moto, une fabrication en série. Et puis, en fait, notre moto a été essayée par des bons pilotes, dont Charles Coutard, et tout le monde s'est aperçu que cette moto avait vraiment une avancée technique. Et il y a eu des éloges sur la presse de l'époque, hein, en 82, en 83. Et bon, les gens nous ont poussés en disant, il faut essayer de faire des petites séries, on serait acheteur et tout. On est parti un petit peu la fleur au fusil, mais on n'avait pas les moyens suffisants pour faire une usine de moto. Et en fait, on a commencé à produire à peu près, je veux dire, de façon continue en 84. Et 84, on a dû faire 300 motos. 85, on a fait 450 motos. Mais il faut savoir qu'en 85, on a fait 450 motos, mais on avait 2000 bons de commande. C'est-à-dire qu'on n'a même pas livré un client sur quatre.
C'est ça le succès.
Notre souci était de franchir de passer à la vitesse supérieure et de franchir l'étape, de devenir entre gros artisans et industriels. Il y a un cap énorme, donc un cap d'investissement. Et ben, tant qu'on n'avait pas les moyens pour investir, ben, on ne pouvait pas franchir ce cap. Et bon, on compensait en travaillant nuit et jour. Hein. Je raconte souvent une histoire, j'avais une douzaine d'employés. À certains moments, quand on avait tous les composants pour monter les motos, et puis les clients qui voulaient acheter ces motos, ben, on bossait comme des fous. On a bossé à certains moments 48 heures sans s'arrêter. C'est-à-dire que les clients, les employés ne rentraient même pas chez eux, dormaient quelques heures sur place et partaient au boulot et tout. Enfin, c'était un truc incroyable, il y avait une solidarité énorme. Et on s'est battu vraiment pour arriver non seulement à produire des bonnes motos, mais arriver à en produire en quantité suffisante pour que l'affaire soit viable. Et en fait, bon, c'était notre problème. On savait que le seuil de rentabilité était à 500 machines. Là, on ne gagnait pas d'argent, mais on n'en perdait pas. En dessous de 500, on en perdait. Donc, pendant toute la production de JCM, on a perdu de l'argent. Et très vite, on a cherché à trouver un partenaire industriel. Alors là, il y a une aventure à écrire, il y a un livre à écrire. On a trouvé toutes sortes de personnes qui se sont manifestées, sachant que j'avais un ami qui était président du conseil général de Haute-Saône, Christian Bergelin, qui est décédé maintenant, mais qui avait pris le projet à cœur et qui était à l'époque ministre de Jeunesse et Sport sous l'époque de la présidence de Chirac, et qui avait dit si la JCM trouve un partenaire sérieux, industriel sérieux pour pérenniser la fabrication, Jeunesse et Sport offre 1 million de francs à ce partenaire, un petit droit de prime pour vraiment encourager. Donc voilà. Alors on a eu, à l'époque, il y a 30 ans, 1 million de francs c'était beaucoup, et on a eu plein de chasseurs de primes qui sont venus, des gens qui ne connaissaient rien et puis qui n'avaient pas les moyens d'industrialiser le produit, mais qui cherchaient 1 million de francs à Bergelin pour remonter leur trésorerie ou pour diverses raisons. Donc on a été bousculé au sein de discussions politiques industrielles, et nous on demandait qu'à produire des motos, et puis en fait on maîtrisait pas tout. Et le jour où j'ai trouvé un partenaire industriel, il est arrivé ce qui arrive dans bien des cas, enfin je schématise très vite, hein, mais il est arrivé dans ce qui arrive dans bien des cas, c'est-à-dire que je suis tombé sur un gros tour qui m'a absorbé la chose, et puis au bout de 6 mois qui m'a demandé de partir. Il avait toutes les cartes en main quand il a su, quand j'ai eu donné tout mon savoir-faire, et puis toute la façon de fabriquer, le réseau de sous-traitants, le réseau de concessionnaires, le réseau d'exportateurs, parce qu'on exportait beaucoup. Je me suis fait piquer tout ça, je me suis pas suffisamment protégé, et voilà. Donc
ok Joël, on va passer à un morceau de musique et puis on te reprend tout de suite, Joël. Ok.
À tout à l'heure.
Ah ouais, quand t'as le tué.
Help he stops,
Joël, t'es toujours avec nous ?
Oui.
Oui, on disait hors antenne que vraiment t'avais la passion de la moto et ça s'entendait quand t'en parlais, quoi. Vraiment, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui aime autant son métier et son hobby, quoi.
Oui, enfin, j'ai eu une chance extraordinaire par rapport à beaucoup de gens, c'est que je n'ai travaillé que dans ma passion. C'est-à-dire que en sortant de l'école, juste après mes études, même pendant mes études, j'étais pilote professionnel de motocross déjà.
Ouais, j'allais le dire un petit peu. J'ai vu un peu l'interview qu'a fait Guy de toi, mais tu t'es aussi donné les moyens de ta passion parce que j'avais vu que t'avais passé un concours pour entrer dans une école d'ingénieur, que t'avais été reçu et pour pouvoir continuer quand même à faire ta passion, t'as déchiré l'inscription pendant que tes parents étaient pas là pour pouvoir quand même continuer. C'est quand même de se donner de corps et âme à la moto, quoi.
Je pense, alors bon, c'est sûr que quand on a 20 ans ou 18 ans, on prend pas les mêmes décisions qu'à 50 ans ou 60, mais j'ai pas réfléchi longtemps. C'est sûr que l'affaire de l'école d'ingénieur, en fait, mon grand-père est ingénieur des arts et métiers, à Peugeot, bien entendu, puisque dans le pays de Montbéliard, tout le monde travaille à Peugeot, et il fallait que le petit-fils soit ingénieur aussi. Et mon père souhaitait ardemment à ce que je sois ingénieur. Et puis en plus, ça me plaisait bien, et puis je me débrouillais pas trop mal dans les études. Et donc j'ai un BTS en fabrication mécanique, et mon père me demande de m'inscrire à l'école d'ingénieur de Belfort. J'ai réussi le concours sans problème, et je reçois la réponse du concours, comme quoi j'étais admis à passer 3 ans d'études à l'école d'ingénieur de Belfort. Au mois de juillet, mes parents étaient en vacances. Et donc j'ai déchiré la feuille, et j'ai dit à mes parents que j'avais raté le concours. Leur grand désespoir, leur fils n'était pas doué pour faire ingénieur, et puis ça s'est passé comme ça, j'ai continué à faire du motocross.
Et c'est dommage, Joël, actuellement tu serais en train de pêcher au bord de la Saône, et assis sur un fauteuil et tout.
Parce que mes copains de l'époque, ils sont tous retraités maintenant, ils sont peinards et tout. Voilà. Mais bon, je voudrais pas du tout de cette vie-là, et j'aime bien. Bon, c'est vrai que j'ai une vie active dans la moto actuellement. Comme tu le disais, il y a le magasin Trail 70 qui me prend beaucoup de temps, qui m'a toujours pris. On arrive dans notre 39e année de Trail 70. Et bon, les affaires sont ce qu'elles sont maintenant en France, hein, on le sait.
Ouais, comme partout, dans le Nord aussi. Ouais.
En fait, ça me plaît, quoi. C'est un challenge comme en motocross, comme en trial. Quand il y a des courses difficiles, c'est là qu'on fait la différence. Et je continue toujours à me battre comme le premier jour. Et voilà, c'est tout. C'est dans mon caractère. Je crois pas que j'étais fait pour aller à la pêche en bord de Saône. J'y suis allé quelques fois, mais ça m'a pas trop plu. Hein.
De tous tes hobbies, quel est ton meilleur souvenir en cross, trial ou construction de la moto? Ton meilleur souvenir, Joël?
Alors là, oui, tu me prends un peu de cours. On parlait de la Tour Eiffel, oui, ça a été un grand moment. La JCM, c'était quand même quelque chose de particulier. Il y a un truc de très fort là-dedans. En fait, moi j'étais parti, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas vraiment l'idée de construire des motos en série, je voulais me faire une moto. Et en fait, si on prend le cheminement, c'est le suivant. On a des idées dans la tête, je faisais du trial, j'avais fait du motocross, j'étais bien impliqué dans le tout-terrain, je connaissais bien la mécanique puisque je vendais les motos des marques présentes à l'époque. Et bon, j'avais des idées. À l'époque, j'avais un atelier qui s'appelait CMP, Corroy Mécanique Précision, où j'avais un petit peu appliqué ce que j'avais appris à l'école, c'est-à-dire c'est un atelier de mécanique de précision où on faisait des pièces spéciales pour équiper les motos tout-terrain. En résumé, on adaptait des admissions à clapet sur les motos de trial pour les rendre plus souples, on faisait des bouchons de fourche rallongés, on faisait des bouchons de fourche à air, on faisait des sabots moteurs protection, ça n'existait pas à l'époque. Enfin bon, j'avais tout un catalogue là-dessus, puis à force de faire ça, je me suis dit, tiens, je vais me faire une moto plus évoluée, notamment avec cette histoire du mono-amortisseur. Qui existait à l'époque en cross, c'était les débuts en cross, il y a eu les cantilevers de chez Yamaha, mais il y avait les ProLink, il y avait full flotteur de chez Suzuki, et moi j'ai voulu imaginer quelque chose pour le trial, ça s'était jamais fait. Donc pour revenir à ça, il y a un truc qui est très fort, c'est entre l'idée, on a une idée, on fait des croquis, on le met sur la planche à dessin, on fait un prototype. Le prototype, il roule. Le prototype, éventuellement, il gagne des courses. C'était le cas. La première course que j'ai fait, la première course que j'ai fait avec le deuxième prototype, j'ai gagné tout de suite. C'est une moto qui était bien évoluée, qui avait déjà un frein à disque à l'époque, en 82. Les freins à disque sont apparus dans les années 90 en trial. Moi, on était précurseur là-dessus. Donc, partir de l'idée, faire une moto, un prototype, qui gagne des courses, après que vous fabriquez, que les gens vous achètent, et en plus qu'ils se font plaisir avec, et même qu'ils ont des bons résultats sportifs, le cheminement, il est énorme, et il est absolument fabuleux pour le concepteur. C'est-à-dire que de votre idée, vous avez réussi à faire un produit fini, que des gens vous ont acheté, qui sont heureux de l'avoir, et qui se font plaisir avec. Et ça, je crois que c'est ce qui me reste le plus fort de ce que j'ai fait dans ma vie. La construction des motos. Et quand ça s'est arrêté, j'étais vraiment orphelin de quelque chose. J'avais plus cette conception. Alors, ça m'a recherché. J'ai refait plein j'avais plein d'idées. J'ai refait plein d'esquisses, de dessins, de trucs et tout. Mais bon, j'avais eu une leçon. La leçon dans la vie, c'est que quand on a une bonne idée, mais qu'on n'a pas les moyens de la réaliser, si un matin vous vous levez, vous avez une bonne idée, mais vous n'avez pas les moyens de la réaliser, vous allez vite vous recoucher. Parce que c'est le début des ennuis qui commence. Et en fait, on n'a jamais eu vraiment les moyens de réaliser nos idées à la JCM. Et si on avait eu les moyens, la JCM, j'en suis persuadé, existerait toujours. Parce qu'on avait des moyens d'avant-garde, on avait des idées d'avant-garde, on avait l'idée aussi de développer une machine d'enduro, on avait notre propre moteur qui était dessiné, bon, c'était sur les rails. Le problème, c'est qu'il manquait des moyens. Et en France, alors moi, j'ai toujours une expression, je suis champion de France des poignées de main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, ben, les gens me disaient, monsieur Courroy, fantastique, vous faites une moto française, fantastique, si tout le monde faisait comme vous, c'est bien. Là, je disais, oui, mais ok, mais j'ai pas les moyens de faire. Et en France, on n'avait pas ce que les Américains avaient à l'époque, ou ont toujours maintenant, c'est-à-dire des capitaux à risque. Capitaux à risque, c'est de dire, ben, voilà, on mise sur un projet, bon, on mise sur 10 projets, il y en a peut-être 3 qui seront excellents, 3 qui seront mauvais, puis quelques-uns qui arriveront à survivre, mais les gens sont prêts à mettre de l'argent sur des choses qui paraissent productives pour l'avenir. Et la JCM, on faisait partie, c'était sûr. J'ai eu un prix offert, qui m'a été attribué en 84 par le CGPME, c'était l'association des dirigeants de France, qui offrait un prix à la meilleure jeune entreprise de moins de 3 ans, mais au produit le plus innovant, le produit qui était le plus vendeur. Donc on avait eu un prix spécial d'exception parce que enfin, on faisait figure de précurseur dans le monde de la moto et que les gens voulaient nous en acheter. Et voilà, mais bon, on n'a jamais pu franchir cette étape. Et quand je l'ai franchi, j'ai trouvé donc un associé, comme je disais. Je me suis fait évincer très vite. Et en fait, la JCM n'a pas eu d'avenir parce que l'associé en question avait bien les moyens de faire, mais n'avait pas le savoir-faire, elle n'avait plus le savoir-faire puisqu'il m'avait évincé. Et en fait, ça n'a pas continué. Voilà, c'est dommage.
Joël, on t'écoute. Joël, on t'écouterait pendant des heures, hein, tu sais. Bon, ouais, on a parlé que de la JCM, mais si on voulait parler de ta carrière. Mais oui, éventuellement, ouais. Bon, bah, écoute, Joël, là, on est. Tous les auditeurs là sont à l'écoute de l'aventure de la JCM, mais éventuellement aussi les auditeurs peuvent venir te voir d'abord dans ton musée à Vesoul, et j'espère que tu viendras faire le trial de Vingles, le trial en l'ancienne qui va se dérouler en mars, je crois.
Mois de mars, voilà, oui, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai gagné plusieurs fois d'ailleurs avec mon Ariel.
Et voilà.
Et ben, j'y retournerai, ça me fait un plaisir. J'avais un bon accueil dans le Nord, j'ai des amis là-bas à Lille.
Et ben voilà.
Et en plus, j'aime bien retourner là-bas, je suis pas très loin de la Belgique. J'ai couru beaucoup en Belgique dans mes années de motocross et j'en garde des souvenirs extraordinaires. Les gens du Nord, les Belges sont très fervents de moto. Je me rappelle des ambiances en motocross en Belgique. C'était des grandes kermesses, des grandes fêtes, c'était fantastique.
Voilà. En effet.
On ira te voir donc en mars à Vingles.
À Vingles et puis aussi au motocross de classique là, tout près de Cambrai, chez Alain Deloge. Joël, on te remercie de ton intervention et puis. On te rappellera, tu continueras à nous parler.
À la radio, hein, quand je serai si je viens là-bas, je viendrai vous rendre visite.
Pas de problème.
Merci, à bientôt.
Allez, salut Joël. Bye.
arrivons à la deuxième partie de cette émission, déjà bien entamée. Il y a Yanis qui vient nous rejoindre, ça nous fait beaucoup plaisir. Bonjour Yanis.
Bonjour Loïc, bonjour à tous. Ouais, j'ai très bien.
Il y a également Antoine de Flinerach qui était là, qui est là aussi. Bonjour Antoine. Et donc, il est temps de parler maintenant du festival, hein, Flinerach, le Festi-Rock, qui se déroulera le 23 novembre. Le prix des places est de 8 €, en vente en ligne dès maintenant sur le site festirock.ue. Mais vous avez aussi, chers auditeurs, la chance de gagner 10 places via notre Facebook Kick un coup. Allez le voir, vous verrez, ça sera très simple de pouvoir gagner les places. Ils sont sympas quand même, hein, à Flinerach. Donc nous avons avec nous JP et Simon qui vont nous parler très rapidement de votre manifestation qui est la cinquième, hein, je crois, c'est la cinquième édition.
Voilà, on va fêter le cinquième anniversaire du Festi-Rock. On va, une fois de plus, on va rendre hommage à un groupe. On va, cette année, on a décidé d'inviter Cover Queen pour rendre un hommage à ces... Un bel hommage au groupe Queen, justement, du coup. Et on fêtera cette année les 22 ans de la mort de Freddie Mercury.
Tout à fait.
Jour
tout
pour
à fait.
Jour avec le Festi-Rock. Donc c'est...
Ah, c'est pas un hasard, là.
C'est pas un hasard. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous le DJ du groupe Ursula.
Ouais.
Bonjour Didier.
Première partie Bonjour. Du groupe, en première partie du Festi-Rock.
Voilà, le groupe Lillois dont on parlait tout voilà. à l'heure. Hein. Mm-hmm. Vous êtes deux groupes à passer en première partie. Il y a aussi The Deep Kiss, c'est ça ?
The Deep Kiss.
Voilà. Et donc, comme on disait tout à l'heure, tu écris tes chansons, ta musique, etc.
Oui, c'est ça. Hein. Ouais.
Et d'ailleurs, j'ai vu que tu étais passé à Saint-Sauveur, je crois, en juillet 2013.
Fin hein. juillet.
Ouais, il n'y a pas longtemps. Ouais.
Ouais. Ouais.
Vous tournez beaucoup dans la région, j'imagine ?
Bah oui, quand même, ouais. Dès qu'on peut. Et c'est toujours un plaisir de tourner dans le coin parce que c'est vrai que moi qui viens de Champagne, c'est pas du tout le même public. Dans le Nord, c'est beaucoup plus chaud.
C'est vrai ?
Ouais, c'est quand même.
Donc
plus...
c'est pas une légende alors que
ah
chez
non,
nous,
non, non, pas du tout.
Le temps, le cœur est toujours à l'amitié.
Étant né ailleurs, je peux constater. C'est vrai que là-bas, c'est beaucoup plus froid quoi. En tout cas, non, c'est plutôt ici qui est plus chaud.
D'accord. Et donc, ouais. le public, vous vous retrouvez, vous avez un public, c'est plutôt des. Des quoi ? Des jeunes, des...
Notre moyenne d'âge, c'est 15-30.
D'accord, donc parce que vous, c'est plus du punk rock hein, quand même que vous faites.
Punk rock, hein, power pop.
Même s'il y a parfois des influences, j'ai vu Iron Maiden, des trucs comme ça. Et vous avez sorti deux albums déjà. Hein.
Oui, autoproduits.
Un en 2011, je crois, et un en 2012, c'est ça ?
Mmh.
Ouais. Ouais, donc vous tournez pas mal déjà quand même.
Ouais.
Autoproduit, c'est pas trop difficile ?
C'est pas si cher que ça en fait de faire un album. Ouais. À partir du moment où on a le matériel chez soi, notamment avec un bon ordinateur et puis les logiciels corrects qu'on peut trouver pour pas très cher maintenant, et puis surtout l'oreille quoi. Hein, il faut l'oreille parce qu'on a beau avoir le meilleur instrument du monde, si on n'a pas l'oreille, c'est pas la peine. Donc il se trouve que on a la chance dans le groupe de l'avoir quand même. Donc on a pu faire ça tout nous-mêmes. Bon, c'est vrai que peut-être que si on avait été produit par Universal, on aurait mieux sonné. Mais pour un groupe autoproduit, je pense qu'on s'est pas trop mal défendu et on en est fiers, quoi.
Donc, on disait tout à l'heure, hein, les textes ont beaucoup d'importance, autant d'importance que la musique. Hein. Donc, tu chantes en anglais, mais avec un accent, donc un petit accent néo-zélandais, mais plutôt. Hein,
c'est britannique.
Voilà. Et vous avez deux morceaux, un en québécois et un en français.
Voilà, ouais.
C'était important pour vous aussi, ça ?
C'est pour faire comprendre qu'on est francophone. On revendique notre côté francophone, on en est fier d'être francophone natif. Et puis, français, c'est pas mal non plus, mais c'est pas vraiment ce qu'on met en avant. C'est plutôt la francophonie, d'où la fleur de lys sur notre logo.
Voilà.
Mais c'est la francophonie, ça n'a rien à voir avec l'idéologie royaliste ou quoi que ce soit, bien entendu. C'est juste pour le symbole de francophonie. Et derrière, on chante en anglais britannique, mais on veut quand même garder notre côté francophone, c'est pour ça. Voilà.
Okay.
Donc un morceau aussi en français, standard, avec l'accent standard, chanté par Loïc, le guitariste. Voilà,
ouais, vous êtes trois dans le groupe, hein,
non,
c'est ça ?
On est trois, ouais.
Il y a donc Loïc, c'est ça ?
Il y a Loïc qui fait guitare, toutes les guitares en fait, et qui chante deux morceaux. Il y a Justin qui fait les chœurs et qui joue de la batterie. Et puis il y a moi qui fais basse et chant.
D'accord, ok.
Voilà.
On va peut-être écouter un petit morceau ?
On the
Ouais, Didier, donc Ursula, hein, je voilà. prononce bien. On disait tout à l'heure que le texte était vachement important. Donc par rapport au morceau qu'on a écouté, que je trouve ça très sympa, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ces paroles?
Alors le morceau Free, j'y tiens particulièrement parce que Free, ça veut dire quoi? Ça veut dire libre, comme tout le monde sait. Mais libre par rapport à quoi? C'est pas une question de libre par rapport au boulot ou autre. C'est libre par rapport à son mental. Parce qu'on est tous esclaves de notre mental. Et justement, on commence à connaître vraiment la liberté quand on commence à faire taire cette voix-là, cette petite voix qui nous tyrannise. Et toutes les paroles du groupe, enfin beaucoup, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus légères, mais on va dire toutes les paroles sérieuses du groupe sont là-dessus, sur l'abandon du mental et cette petite voix qui nous tyrannise et qui provoque les guerres, qui provoque les suicides, qui provoque tout ça. Alors qu'en fait, on est né pour être heureux sur Terre. On n'est pas né pour se morfondre et prendre des antidépresseurs ou fumer du shit, quoi.
D'accord, je suis particulièrement d'accord avec toi.
Voilà.
Et c'est du coup, lors de vos concerts, on sent cette ambiance, cette bonne ambiance, cette joie de jouer de la musique, hein, et carrément, de la partager avec le public. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui vous caractérise finalement.
Ouais, quand même. Je dois dire que là, dans cette formation-là, je suis vraiment hyper content de jouer avec ces deux-là, Loïc et Justin, parce que c'est vraiment, je crois, depuis très longtemps, parce que quand j'avais 20 ans, je faisais un groupe de heavy dans les Ardennes et tout ça. Là, on avait une bonne ambiance aussi. Mais là, je pense que c'est vraiment la première fois que je ressens un plaisir tel à jouer avec des personnes comme ça, quoi. On se comprend, on a vraiment envie de véhiculer quelque chose, et le public le sent. Et on le ressent vraiment quand on s'exprime, quand on fait marcher le public, etc. On voit que les gens, on a la banane sur scène. On est, tu vois, j'allais faire un lapsus avec sur Terre, parce que sur Terre, sur scène, pour moi, c'est pareil. Pour moi, la Terre n'a pas d'importance s'il n'y a pas de scène, quoi. Voilà ce que je veux dire.
Encore un passionné.
Ouais, c'est clair. Et j'ai envie de véhiculer cette voie de vivre, et aussi, j'ai aussi envie de fédérer, comme je dis dans le morceau Free, Let Me Take You Under My Wing and Federate, qui veut dire laisse-moi te prendre sous ton aile et te montrer comment être libre aussi à ton tour, et on pourra s'éclater, quoi.
Ouh, quelle métaphore, quelle belle métaphore. Ça me rappelle le chanteur de Dionysos qui fait beaucoup de métaphores par rapport à l'oiseau aussi. Enfin, je ne sais pas si tu pratiques des fois. Mais
si, j'aime bien la métaphore.
Il écrit vachement bien aussi. Ouais. On va peut-être revenir rapidement au Festirock de Finérage. Donc tu vas passer, hein, Ursula, tu passes en première partie.
En deuxième première partie, ouais.
Voilà,
juste avant Cover Queen.
Voilà, du Cover Queen. Mmh. Hein, tu as un Facebook, hein, où on peut te retrouver.
Ouais,
où
donc
on peut avoir aussi, je crois, des y a des vidéos qui sont aussi...
Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Quand il n'y a pas sur la page Facebook, il y a le lien pour. Donc, c'est Ursula Net, N-E-T au bout, tout simplement, parce que Ursula, ça existait déjà. Donc, Ursula Net, tout simplement, facebook.com/Ursula Net.
Voilà, donc et on ira te voir le 23 au Festiroc. Hein. Donc, le Festiroc, le 23, la cinquième édition.
La cinquième édition, et en première partie, on peut appeler ça comme ça, on aura le plaisir d'écouter Deep Keys, donc juste avant Ursula. Eux seront 5, donc... avec une voix féminine, un groupe de rock avec voix féminine qui va se rapprocher de... Alors moi j'ai cru reconnaître l'intonation de la voix de Dolores, des Cranberries, ce genre de choses, et ça nous a assez séduit. Et donc voilà pour notre première partie, et donc ensuite un hommage à Queen avec quelques surprises, et donc un groupe qui a été formé pour rendre hommage à Freddie Mercury avec un chanteur lyrique, Frédéric Camarillo.
Musique. Oui, vous pouvez apprécier la qualité de la voix, hein, de ce cover. Franchement, quand on l'écoute, on a l'impression de voir, d'écouter Freddie quand même. Hein.
Les yeux fermés, plongés dans la salle et l'ambiance.
Même s'il a sa voix, son timbre de voix spécifique. Bon, c'est vachement bien fait, quoi.
On peut revivre les émotions de Queen, quoi.
Tout à fait, ouais. Ah ouais, je voulais dire aussi, alors une partie des gains récoltés lors de ce Festiroc seront reversés à une association qui devrait acheter donc des guitares acoustiques pour des enfants hospitalisés.
Ouais, voilà, on n'est pas loin de ça, c'est presque ça, tu l'as dans le désordre. on va soutenir un petit peu la clé de l'espoir en offrant 3 guitares à 3 enfants.
Bah, tu vois, en plus, c'est pour la bonne cause. Hein. Ah bah. Donc, je vous rappelle, hein, c'est le 23, c'est ça ?
C'est le 23 novembre à 20h, 8€, Flinérage.
Voilà, donc il y a des places à gagner en allant sur notre Facebook, hein, surtout n'hésitez pas. Sinon, merci à tout le monde d'être Guy, hein, Yanis d'être venu.
Merci à tous.
Fred d'Ursula, Didier, excuse-moi. Et puis Simon et JP de Filmirage et Antoine. Bien sûr, notre ami.
Merci à vous.
Voilà.
Très cher ami d'ailleurs.
Hyper efficace, encore une fois, hein, dans la programmation musicale. Et on vous dit à dimanche prochain. C'est l'Amish qui sera de retour. Il fera une interview de Bill, l'organisateur des 1000 vaches. Parce que vous savez que maintenant il y a 2000 vaches, il y a l'authentique et la classique, hein. Et donc il va nous expliquer tout ça la semaine prochaine en présence de Christine qui fera un point sur l'Info Motoclub et de Gilles qui reviendra sur le Grand Prix d'Espagne.
C'est marrant, tu dis 2000 vaches.
Ça fait beaucoup de monde. Merci beaucoup, à dimanche prochain.